Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique. Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes?
Je parlerai de la gaudrie.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct.
Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Voilà, donc nous sommes prêts. Voilà, on peut. On est
opérationnel. On est en direct.
En direct.
On est tous les trois, c'est
tout
parfait.
Va bien, voilà.
Super.
Je ne suis plus en grève, tout va bien. Voilà, Anne-Marie ne sera pas seule comme la dernière fois.
Je ne suis plus en vacances.
Voilà, et bon, voilà, juste un petit détail technique, vous vous en rendrez compte peut-être tout à l'heure, mais on a des petits problèmes d'impression de papier.
Ah non, ne dévoile pas tout, Guillaume, voilà. La grande surprise du milieu d'émission.
Alors,
on va commencer par toi, exceptionnellement.
Et ben voilà, on change un peu les habitudes aujourd'hui.
Allez, et tu vas nous parler.
Je suis totalement perturbée.
Et ben moi, je vais vous faire un pot-pourri aujourd'hui, un pot-pourri littéraire et un pot-pourri musical.
Bon, très bien.
Et après toi, Anne-Marie.
Ah, ce sera moi, du coup.
Et toi, Anne-Marie.
Et ben alors, on passera à la diète. Voilà. Ah. Avec moi, je vais vous parler de diète. Et de tout ce qui est régime un petit peu loufoque.
Oui, on ne fera pas de photos du studio donc aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien à photographier.
Tu as tout à fait raison. Et on finira donc par toi, Caroline.
Eh bien alors, comme promis, et parce que l'affront de Guillaume ne pouvait pas rester sans suite, je ne vais pas dire impuni, parce qu'autrement je l'aurais convoqué en duel, je vais aujourd'hui vous parler de littérature.
C'est pas vrai.
Eh oui, Anne-Marie.
Bon alors, une fois n'est pas coutume, on commence par toi, Guillaume, et donc tu vas nous proposer un pot pourri.
Oui, et on commence par le littéraire.
Oh.
Alors, mais d'abord, il vous faut vous mettre en condition. Il est vendredi matin. Vous avez décidé de poser une journée de congé pour ne pas perdre de jours. Hein. Oui, c'est sûr, avec le mois d'avril, il faut solder ses congés. Et puis, il fait beau. Et puis, ça fera du bien aussi de changer d'air. Vous avez réservé la veille dans cet endroit qui vous sert de lieu de ressourcement. Vous voulez en profiter, donc vous préparez votre sac de voyage, s'entraîner. Vous prenez des tongs. Oui, il va faire beau et ça sera plus sympa autour de la piscine. Un short, sans y croire, le maillot de bain. La piscine sera peut-être encore un peu trop froide.
Oui, mais ça fait du bien en même temps, l'eau froide.
Oui, c'est ça. Ah, c'est peut-être un lien avec tes régimes.
Même pas.
Et puis vous vous dites, quel programme pour ce week-end? Alors, du repos, de la bonne musique, un peu de détox numérique, bon, pas trop non plus, vous allez voir, mais tiens, pourquoi pas un peu de lecture. Alors, 3 bouquins étaient là dans mon étagère, prêts à être lus, attendant patiemment un moment propice depuis Noël et les cadeaux.
Alors, aurais-tu lu 50 nuances de Grey?
Et non.
Non, toujours pas.
Alors,
Depuis deux ans.
Non. On retrouve au moment de préparer justement mon sac, j'ouvre un des bouquins et je tombe sur la carte de vœux glissée dans le livre. Hein, on y jette un œil. Une carte des parents qui disent de prendre soin de vous, voilà, qui me conseillent de prendre soin de moi, de prendre du temps. Ben voilà, bingo. C'est ce week-end, je prends du temps pour moi. Et tiens, je garde la carte. Bon, même s'il y a une crèche dessus, ça fera quand même un marque-page. Le sac est chargé dans la voiture. Vous jetez un pneu arrière droit du bolide, hein, parce que Anne-Marie, la veille, en sortant d'une célèbre émission de radio, vous dit, tiens, on dirait que ton pneu est dégonflé. Ou peut-être que c'est parce que t'es garé en pente, ou parce que tu roules moins.
Il était vraiment, voilà.
Eh ben oui,
dégonflé,
Oui. Alors là, il bruine, hein, toujours le vendredi matin, mais vous savez qu'au sud, le soleil n'est pas loin. Vous vérifiez la pression du pneu à la station, il est dégonflé.
Ah, tu vois, je pourrais travailler dans un garage.
C'est ça. Vous regonflez et vous entendez le pshhh de l'air qui sort, rencontrant la fine couche de pluie recouvrant les roues. Et il faudra donc attendre la réparation du pneu.
Ah merde.
Et oui. 2 heures plus tard.
En fait, ce que tu nous racontes, c'est une VDM, non?
C'est ça.
C'est une vie de merde.
Mais en fait, non, parce que c'est un très très bon week-end. 2 heures plus tard, vous êtes prêt et c'est parti. Encore 2 heures de plus, 2 heures de route, et vous vous rapprochez de cet endroit qui vous redonne la pêche. Vous arrivez, Vous vous installez dans votre chambre, vous enfilez un short en remplacement de votre pantalon, il fait beau, et vous prenez le premier bouquin du week-end. Il fait beau, oui, vous êtes assis au bord de la piscine, go, c'est parti pour le voyage.
Sauf que tu nous as pas dit... Tu nous as pas dit où c'était ?
Oui, mais j'ai pas besoin de vous dire où c'était précisément.
Ah bah, tu nous racontes ta vie, mais tu nous dis pas où tu vas.
Ah bah oui, nous on veut savoir. C'était où ?
Bah, dans une chambre d'hôte, très agréable.
Mais dans quel département ?
Dans le Gard, tout proche.
C'est nous partager.
Non, mais tu sais, à 2 heures, il n'y a pas que le Gard. Hein.
C'est vrai.
T'as l'Auvergne.
Alors, ça, on te reconnaît bien là pour
défendre qu'il faisait beau,
le massif central. Bah, oui, c'est ça.
Il fait beau aussi dans le centre de la France, quand même.
Donc, je disais, c'est parti pour le voyage. Oui, c'est un voyage, cette première lecture. Il s'agit du livre « Constellation » d'Adrien Bosque, premier roman de ce jeune auteur édité chez Stock et grand prix du roman de l'Académie française. Alors, pourquoi « Constellation » ? Tout d'abord parce que c'est le nom de cet avion à la carlingue aluminée, avion qui, après avoir transporté les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, allait permettre d'allonger les distances des vols commerciaux et de ne permettre qu'une seule escale pour rejoindre les États-Unis. C'est la nouvelle comète d'Air France, telle que le dit l'auteur, en référence à une promotion de l'époque de la compagnie nationale. Mais c'est aussi l'avion des stars. Alors, star, étoile, étoile, constellation. Voilà, c'est QFD. Oui, à cette époque, on hésite encore entre la traversée en bateau et la traversée en avion. Donc, l'avion, c'est quand même l'apanage des personnes les plus riches, il faut le dire. Constellation aussi parce que l'auteur nous fait découvrir des personnages qui sont dans ce vol FBAZN d'Air France du 27 octobre 1949. Et dans cette galerie de portraits, il y a deux stars, Marcel Cerdan, boxeur de renom, qui part en avion pour arriver au plus vite à New York où l'attend Edith Piaf, et pour disputer ce combat pour reconquérir son titre de meilleur boxeur de sa catégorie. Et puis il y a Gisèle Neveu, jeune violoniste, mais reconnue comme une prodige de la musique, et qui fait la traversée avec le Stradivarius qu'on vient de lui confier. Alors vous le savez sans doute, mais ce vol ne se passa pas comme prévu, et l'avion ne put rejoindre New York. Ayant pris la voie aérienne du Sud avec un ravitaillement en carburant aux Açores plutôt qu'en Irlande pour la voie du Nord, pour éviter des conditions météorologiques difficiles sur l'Atlantique Nord, l'avion ne rejoindra pas Santa Maria, mais s'écrasera sur le mont Redondo, sur une autre île de l'archipel, à quelques kilomètres de la piste dégagée qui l'attendait. Que s'est-il passé ? Qui sont ceux qui ont péri dans ce crash ? Les pilotes, les passagers, leurs histoires, leurs passions, leur vie ? Comment se passe l'enquête, l'histoire des familles, leurs réactions, à une époque bien différente de la nôtre sur un plan médiatique ou scientifique ? C'est autour donc de cette catastrophe aérienne qu'Adrien Bosque a tissé son roman très documenté, en nous baladant alternativement vers tous ses protagonistes et tous les aspects de ce drame, y compris les plus inconnus et les personnes qui étaient vraiment là aussi à titre totalement individuel, sans ses stars. Voilà. Alors c'était un peu particulier de lire ça, c'était il y a une quinzaine de jours, vous l'avez compris. Et donc on avait quand même aussi en tête l'actualité de la catastrophe de la Germanwings. Mais c'était un livre très agréable à lire, moi j'ai passé un bon moment. Et c'était une bonne entrée en matière dans ce week-end.
Tu as lu un livre en un week-end, Guillaume ?
Non.
Non, c'était le premier livre du week-end.
Non, mais alors ça veut dire que tu as lu plusieurs livres en un week-end. Mmh.
Je vais continuer l'histoire, et donc on revient dans le contexte.
Mais t'as tout lu, ou... Oui.
Non, mais... Mmh.
Non, mais pour nos fidèles auditeurs, c'est vrai que parfois, Guillaume, tu avais du mal, comme 50 nuances de Grey ou d'autres livres, à les terminer, mais...
Alors bon,
Mais ça veut dire quand même que ça t'a plu, alors.
Oui. Les livres sont posés devant Guillaume et n'ont pas l'air tout neufs. Ils ont l'air d'avoir été lus...
Autour de la piscine.
Soigneusement, je dois le dire, parce qu'ils sont presque neufs. Mais lus.
Alors, donc, on se remet un peu dans ce contexte de ce week-end. Il est vendredi soir. Bon, Constellation a bien avancé, mais le repas est bon, bien arrosé, le sommeil arrive. Et puis bon, c'est un week-end de repos, donc pas de lecture pendant toute la nuit, comme ça peut m'arriver parfois quand je lis des choses qui m'accrochent. Bon.
Et que je ne regarde pas de série.
Voilà, mais c'était aussi détox.
Et que je ne bosse pas le lendemain.
Voilà. Le lendemain matin, donc dès le petit déjeuner avalé, la lecture se poursuivit et se termina. Mais je n'étais pas rassasié de lecture. Elle attaque donc du deuxième cadeau de Noël, celui-ci offert par mes parents en dernière minute en remplacement d'un livre que j'avais déjà lu et qu'ils voulaient m'offrir. Et s'ils avaient écouté mes précédentes chroniques dans Actuel et lui, ils auraient su qu'il n'était pas nécessaire de m'offrir le dernier Nicolas Le Floch puisque je l'avais déjà lu et commenté
donc,
à l'antenne.
Donc ça veut dire qu'ils n'écoutent pas Actuel et lui.
Et non.
Carton rouge.
Et oui. Bon, ça permet d'éviter peut-être certaines discussions difficiles.
Enfin, bon. C'est vrai, peut-être.
Alors, j'ai donc hérité finalement d'un recueil, un recueil de pensées d'un homme qui a contribué à notre histoire et dont l'humour nous a toujours été mis en exergue comme une partie de cette complexe personnalité. Et me voici donc parti pour quelques sautes d'humour de Winston Churchill. Alors avant de vous en citer quelques-unes, on peut prendre quelques minutes pour évoquer qui fut cet homme en quelques dates clés de sa vie évoquées au terme du recueil. Alors, il naît Winston Churchill en 1874, le 30 novembre. Ensuite, il devient sous-lieutenant en 1895, il devient sous-lieutenant dans la 4e des Hussards à Aldershot et il embarque pour la Havane. Et donc il va devenir aussi correspondant de guerre en même temps qu'il est militaire. Ensuite il va partir en Inde, au Soudan, en Égypte, et puis en 1899 ce sont ses premiers pas en politique, mais il échoue aux législatives. En 1900 il est élu député conservateur dans la circonscription de Oldham au nord de Manchester. Il continue toujours alternant donc entre cette vie politique et son rôle, enfin et ses publications de textes, de récits de voyage et de récits de guerre. En 1905, il devient vice-ministre des colonies. En 1908, ministre du commerce. Et puis ensuite naissent ses enfants, etc. Il devient en 1910 ministre de l'intérieur. De 1911 à 1915, il est le ministre de la Marine, le premier lord de l'amirauté au Royaume-Uni, jusqu'à l'échec de l'expédition des Dardanelles, où là il redevient militaire. Et ensuite, il devient ministre de l'Armement, ministre de la Guerre et de l'Aviation, dans les années 1917-1919. Il redevient ministre des Colonies, voilà. Ensuite, en 1922, c'est l'échec. Il est éliminé des élections, comme ça arrive parfois. Et il se met donc à la peinture à ce moment-là. Un homme très complet. Il continue à publier, bien entendu. Et en 1924, il redevient député, puis chancelier de l'échiquier, donc le ministre des Finances. Et de 1929 à 1939, il redevient un simple député. Mais il ne cesse de mettre la classe politique en garde contre les fascismes et de prôner le réarmement de l'Angleterre. Voilà. En 1939, il redevient le premier lord de l'amirauté. Et ensuite, en 1940, il succède à Chamberlain au poste de premier ministre. Et le 13 mai 1940, à la Chambre des communes, il annonce une guerre totale contre une tyrannie monstrueuse et il prédit du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Voilà. Et donc, Churchill démissionne au moment où les travaillistes gagnent aux législatives en 1945. Il publie ensuite ses mémoires sur la Deuxième Guerre mondiale. Il redevient en 1951 Premier ministre, mais bien qu'affaibli par des attaques cérébrales à différentes reprises. Il démissionne au final en 1955 et décède en 1965 à l'âge de 90 ans. C'est quand même aussi un homme qui a marqué l'histoire de l'Europe, un sacré personnage. Alors pour les pensées, je me suis dit que j'allais vous en sélectionner que certaines, celles qui m'ont parlé pendant ce week-end-là. Et donc pour vous dire que ma cure de détox numérique n'était pas totale, puisque ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux les ont eu au fil de l'eau. Donc voilà. Donc je vais en retenir que quatre, celles qui m'ont peut-être le plus correspondu, le plus plu, le plus parlé à ce moment-là. Alors la première, s'améliorer, c'est changer. Être parfait, c'est changer souvent. Alors c'était marrant parce que c'était justement la Saint-Parfait que j'ai lu ce livre, donc c'était très drôle. Être mégalomane est la seule façon d'être sain d'esprit. Alors, je ne sais pas si ça s'applique à moi, peut-être un peu. Enfin bon. Troisième pensée, il est toujours bon de regarder vers l'avenir, mais on peut difficilement regarder plus loin qu'on ne voit. Mmh. Je trouve que c'est intéressant pour tous les gens qui font des plans sur la comète, hein, pour revenir aux constellations. Et puis quatrième, heureusement que la vie n'est pas si facile, sinon on arriverait trop vite à la fin. C'est pas mal aussi. Je trouve que c'est positif, d'une certaine façon. Alors bon, c'était une lecture bien sympathique et adaptée donc à cette volonté. Hein, vous voyez, c'est un livre assez simple. Hein, il y a beaucoup de pages, enfin il y a pas beaucoup de pages, mais voilà, c'est écrit quand même assez gros, avec des petites pensées, des petits. Voilà, bon, c'est pas très très long à lire, hein, je vous l'accorde. Mais c'était bien sympathique pour se la couler douce au bord de la piscine. Piscine qui, toujours pour rester dans le contexte, malgré ses 20 degrés de l'eau, m'a justement accueilli par ce moment-là pour une baignade éclair avant un séchage au soleil. Alors, pour finir...
Quel week-end trépidant.
Ah bah oui, non mais... C'est un week-end repos, etc. Hein, enfin voilà, je vous raconte ma vie, hein, vous l'avez bien compris. Donc pour finir le tour de mes cadeaux de Noël, je me suis donc attaqué au recueil de chroniques de Stéphane de Groot.
Le deuxième, si j'ai bien compris.
Retour en absurdité, oui, effectivement, c'est le deuxième, tout à fait. Donc, bon, l'essentiel d'entre elles sont issues de ses interventions dans l'émission du supplément de Canal+, la saison dernière. Alors, petite parenthèse télé, vous savez que c'est dans cette émission que le président de la République a fait sa dernière intervention télévisuelle. Alors, on en a dit beaucoup de choses, mais personnellement, j'ai trouvé que ça renouvelait quand même sacrément le style, peu importe le contenu du discours, mais même le débat qui était un peu difficile avec les lycéens, enfin notamment sur le fond, mais je trouve que ça nous change un petit peu des boulots, des pujadas, et même si je vais t'attrister, chère Caroline, de ce cher Laurent Delahousse. Enfin, je ferme cette parenthèse, mais voilà.
J'ai trouvé. Après, on n'était plus forcément dans l'exercice de l'interview, pur et dur, effectivement. C'était aussi un bon plan de com' pour François Hollande,
surtout,
et c'est pour ça qu'il a choisi quand même cette émission que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs. Moi, je sais que je la regarde tous les dimanches, mais c'est vrai que c'était plus une opération de communication. Oui. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Sinon, effectivement, il serait allé sur le plateau de la housse.
Mais je pense qu'il a touché aussi d'autres gens par ce biais-là.
Oui, mais il n'est pas fou.
Mais tout à fait.
Pour être très complet, avec Vincent Dedienne, qui était samedi soir à Florac, à la Jeannette Verte.
Tout à fait.
Alors lui, il me fait vraiment pas rire, pour le coup. Mais t'y allais, d'ailleurs, non ?
Non.
Non, d'accord.
Bon, revenons-en donc à Stéphane.
Oui,
à
ton week-end. Oui, oui.
Et là, c'était pour vous témoigner de ma déception pour la lecture de ces chroniques. Alors peut-être que j'avais déjà fait trop de lectures pour le week-end, hein, et que comme je ne suis pas habitué, comme tu l'as sous-entendu à Marie...
Trois livres en un week-end, Guillaume, voilà, c'est pas possible.
C'était
là.
Peut-être l'overdose, mais c'est surtout, je crois qu'une chronique, c'est quand même avant tout fait pour être dite, jouée, et finalement un petit peu délivrée du texte. Alors l'écriture de la chronique, elle est indispensable pour jouer sur tous les mots, détourner les sens, jouer avec les phrases, notamment dans le style qu'il utilise. Mais la lecture ne me permettait pas de profiter du son, de la façon dont il le jouait finalement. Et il nous aurait fallu un livre audio, hein, pour avoir les extraits et profiter de tous les sens cachés que révèle l'écriture en appui à cette oralité. Alors c'est intelligent, c'est drôle, c'est plein d'esprit. Mais pour moi, c'était trop plat dans ces quelques pages.
Voilà, moi, je peux apporter une petite expérience personnelle. Je vis à côté de quelqu'un qui a dévoré ces deux bouquins en se marrant comme il se marre en les écoutant, quoi.
Voilà.
Donc, voilà.
Donc, bon, voilà, c'était une lecture un petit peu moins positive. C'est sur cette lecture un peu moins positive que j'ai terminé mon week-end en allant voir la mer avant de remonter dans nos montagnes.
Pas de bain de minuit.
Non. Content d'un week-end ressourçant et positif. Et alors, comme 48FM ne passe pas à Montpellier, j'ai basculé mon autoradio sur un sacré pot pourri. La bande-son de notre émission sur les chansons des années 90, dont le CD a échoué dans ma voiture par je ne sais quel miracle, et qui a donc accompagné mon retour. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas y avoir droit pour le pot pourri musical que je vous avais annoncé tout à l'heure. Mais je vais vous proposer plutôt, pour ce pourri musical, de faire référence à une autre actualité. Vous savez que c'est mon péché mignon, les hommages aux chanteurs décédés.
Et il y en a pas mal en ce moment.
Spécial dédicace à Ludo, donc on peut le faire par
c'est
avance.
Ça, c'est ça. Et donc, quel est le dernier décédé qui pourrait entrer dans la ligne éditoriale musicale de cette émission ? Hein ? Voilà.
Bah, alors, il faut quand même rappeler qu'on a eu Michel Sardou. Ah non, il n'est pas décédé, lui.
Ah bah non. Bah, il y a un jour où forcément il passera l'arme à gauche.
Là, on est prêt hein, pour ce jour-là.
Bon, c'est celui qui avait chanté « J'entends siffler le train ».
Et c'est ça, c'est donc Richard Anthony, Ricardo Tech, B-T-E-C-H, je ne sais pas comment on peut dire ça. Il a bien fait de changer de nom. c'est Wikipédia hein, qui nous fait sa fiche. Donc voilà, chanteur français, né le 13 janvier 1938 au Caire en Égypte, et mort donc le 19 avril 2015 à Pégomas dans les Alpes-Maritimes. C'est le pionnier du twist en France, celui qu'on appelle le père tranquille du twist, qui compte plus de 600 titres enregistrés et plus de 50 millions de disques vendus.
Quand même.
Et oui, quand même. Et donc, pour finir cette chronique pot pourri.
Des 600 titres.
Voilà. Je vous propose d'écouter des extraits de trois de ses plus célèbres chansons.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin.
Un, deux, trois. Elle tremblait de montrer quoi?
Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini. Un bikini rouge et jaune à pois.
Un, deux, trois, voilà ce qui arriva.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain. Car elle craignait de choquer ses voisines. Et même aussi de gêner ses voisins.
Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi?
Son petit itsy bitsy teeny weeny tout petit petit bikini. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme.
Et ça, c'est tout à fait normal.
Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme.
Est-il vraiment dans son état normal?
J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au cœur une merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme.
Raconte, est-il vraiment sérieux?
Je la trouve belle, je la chante sur toute la gamme.
Comme ça, quand on est amoureux.
Demain, je brise les ponts. Je prends deux billets d'avion. Et je vais me l'emmener prendre des vacances en jeune marié. C'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai pensé siffler ce train toute ma vie.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et on se retrouve pour la deuxième partie d'Actuel et lui. Et c'est donc maintenant Anne-Marie.
Et on va se mettre à la diète.
Eh ben voilà, moi qui commençais juste à manger.
C'est ça. Bon, enfin, bon appétit quand même aux auditeurs qui nous écoutent. Hein. Alors, c'est une constance, hein, comme chaque année, à l'arrivée des beaux jours, les magazines nous rappellent qu'il serait temps de perdre nos kilos superflus avant la terrible épreuve de l'essayage du maillot de bain. Pas toujours évident d'avoir une bonne hygiène de vie au quotidien, alors des personnes ont décidé de griller certaines étapes, quitte à se mettre en danger pour redessiner une jolie silhouette. Je vous propose un petit tour d'horizon des régimes loufoques qu'il serait souhaitable quand même de ne pas suivre, bien évidemment.
Ah bon, d'accord, donc c'est même pas des conseils, quoi.
Ah non, mais j'ai pas dit que c'était une chronique conseil, hein, j'ai juste dit, voilà, on va parler de diète, régime loufoque.
Ok, ok. Non, mais bon, voilà.
Enfin, après, vous faites ce que vous voulez.
Je m'étais dit, voilà, pour préparer l'été, impeccable, Anne-Marie nous donne des conseils. Non,
t'as pas besoin, tu lis les magazines, à chaque fois, on te dit comment perdre 1 ou 2 kilos, comme ça.
Ok, bon, donc on va commencer avec les stars qui affichent souvent une ligne parfaite.
Alors, parmi les lubies des stars, l'actrice Jennifer Aniston s'amuse par exemple à se nourrir de peau de bébé, nous apprend le magazine Closer.
Peau de bébé ?
De peau de bébé, bébé. Ah, d'ailleurs,
ah oui, de peau pour bébé.
Pour bébé, oui.
Moi, j'étais à la peau...
Ah non, POT. POT.
Oh mon Dieu.
Enfin, D, du coup, POTS pour...
Mais c'est affreux.
Ah, non. Alors là, tu vois, tu nous coupes l'appétit direct, Guillaume.
Excusez-moi, mais je sais pas. Je...
En fait, ton esprit est encore en vacances.
C'est ça.
D'accord. Donc non, elle se nourrit de peau pour bébé. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur ce régime, j'ai l'impression plus que ça t'intéresse, Guillaume, appelé le Baby Food Diet. Alors, de son côté, l'actrice britannique Kate Beckinsale s'abstiendrait d'avaler quoi que ce soit après le coucher du soleil. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt faisable, hein, j'ai envie de dire.
C'est l'inverse du ramadan, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Plus étrange, la chanteuse Cheryl Cole suivrait un régime adapté à son groupe sanguin. L'actrice Megan Fox a quant à elle décidé de manger comme nos ancêtres, à savoir de la viande, du poisson ou encore des fruits. Et pareil, je reviendrai un peu plus tard sur ce régime nommé le régime paléolithique. Alors de leur côté, la femme d'affaires Victoria Beckham et la chanteuse Lady Gaga semblent obnubilées par le chiffre 5. Donc Victoria Beckham ne s'autorise à ingurgiter que 5 poignées de nourriture par jour. Donc autant dire qu'elle ne doit pas coûter cher... En course, hein.
Ça dépend de la poignée.
Oui, enfin, t'as vu aussi la taille de Victoria. C'est vraiment une taille de guêpe, quoi. De son côté, l'interprète de Poker Face, donc Lady Gaga, elle concentre l'essentiel de ses repas autour de ce chiffre 5. Ainsi, pendant 5 semaines, son assiette doit comporter 5 aliments et la star doit pratiquer 5 exercices physiques par jour. Donc ça encore, je me dis... Ça va, hein, par rapport aux 5 poignées de nourriture. C'est vrai que je préfère encore le régime de Lady Gaga. Tandis que la starlette Kim Kardashian aurait suivi le régime Atkins, consistant à supprimer totalement les glucides de son alimentation durant 2 semaines. Alors bon, je vous le rappelle quand même que les glucides sont des sucres et que les glucides sont quand même les principales sources d'énergie pour l'organisme. Donc je pense qu'effectivement, au bout de 2 semaines, ça doit être quand même fatigant pour l'organisme. Donc c'est un régime qui n'est pas recommandé de la part des nutritionnistes, ça va de soi. Alors de son côté, l'actrice Renée Zellweger, adepte elle de régime aussi, avait confié sucer un glaçon pour éviter de grignoter. Donc là, ça donne vraiment pas envie. Quant à la chanteuse Beyoncé,
surtout qu'il y a d'autres choses éventuellement qui peuvent être sucées. Bon.
Ah, ça y est, on n'en avait pas encore parlé. C'est arrivé.
Alors,
comme
je m'attendais
ça
à tout se fasse ça.
Mais je ne. C'était pas forcément une allusion sexuelle.
Non, à quoi alors?
Bah, je sais pas. Un bâton de réglisse.
Ton week-end t'a changé, je trouve. Mais je sais pas ce que t'as vraiment fait. Est-ce que t'as vraiment lu les 3 livres? Je sais pas. Parce que là, je me pose des questions.
Un stylo, éventuellement.
Oui, si tu veux. Bon, on va réfléchir, on va mettre ça sur la table tout à l'heure. Bon.
C'est ça.
Hein, bon, en tout cas, elle, c'était plutôt sucer un glaçon pour éviter de grignoter. Quant à la chanteuse Beyoncé, elle se nourrit que de céréales, ou presque, tandis que l'actrice Demi Moore n'avalerait que des légumes crus.
Enfin, le mannequin brésilien Adriana Lima ne consommerait que des boissons hyper protéinées et ce pendant 9 jours.
Alors, et après?
Hein?
Et après?
Et après, elle a une alimentation, mais quand tu la vois, c'est pareil, c'est quand même une mannequin qui est magnifique, mais qui est quand même pas épaisse. Ça m'étonnerait qu'elle soit adepte de nourriture comme. Oui, enfin voilà, ça m'étonnerait qu'elle aille dans les restaurants style McDo et compagnie. Alors, mais attention, hein, si ces régimes permettent de perdre rapidement du poids, ils ne sont efficaces que sur du court terme et dérèglent surtout l'équilibre de l'organisme, vous l'aurez bien compris.
Alors Anne-Marie, tu vas donc nous détailler un peu ce régime paléolithique.
Alors c'est sûrement le plus ancien de tous les régimes, il correspond effectivement à ce que les premiers hommes mangeaient spontanément. La diète paléolithique supprime carrément deux des grands groupes d'aliments, soit les produits laitiers et les céréales. Elle fait partie des régimes faibles en glucides, donc pas de pain, ni de fromage, ni de dessert, ni de sauce, et encore moins d'alcool ou de boissons sucrées par exemple. Donc en gros, ce qu'on a sur la table là aujourd'hui dans le studio de 48FM, bon, on supprime pas mal de choses, quoi.
Très triste.
Très triste. Alors dernièrement, c'est Jeb Bush, ancien gouverneur de Floride, qui est sur le point d'annoncer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, qui s'est distingué donc en perdant entre 7 et 15 kilos. Il a suivi ce régime paléo. Et c'est d'ailleurs quand j'ai vu en fait cette information, je me suis dit pourquoi pas faire une chronique sur ces régimes un peu loufoques. Alors l'acteur Matthew McConaughey, l'actrice Uma Thurman ou encore la chanteuse Miley Cyrus se nourrissent également comme les chasseurs-cueilleurs d'il y a quelques millions d'années. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, vous l'aurez compris, finalement, toutes les viandes maigres, les volailles, mais aussi donc les poissons, les fruits de mer, ainsi que les œufs, sans oublier les fruits et légumes pauvres en amidon, comme le chou-fleur, le brocoli, les haricots verts, la courgette, toutes les noix et les graines. Donc en fait sur un site, j'ai vu par exemple des repas types qu'on peut suivre sur une journée. Alors,
fais-nous rêver.
Oui, si on veut. Alors, au petit déjeuner, un demi-melon, c'est encore, c'est bien,
ça va.
Avec des amandes. Et alors, ils disent du saumon aux fines herbes. Bon, j'aime beaucoup le saumon, mais c'est vrai que comme ça, au matin, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais bon, après, on peut aussi manger des œufs, effectivement, ou de la viande. Repas du midi, donc en entrée, ils proposent de la salade d'épinards avec de nombreux légumes. Pourquoi pas, vinaigrette à base d'huile d'olive et de jus de citron, une dinde avec sauce aux agrumes et en dessert, noix du Brésil et framboises. Repas du soir, viande de cheval, légumes variés cuisinés au wok, salade de fruits et graines de sésame. Alors pendant les 6 premiers mois, une diète faible en glucides comme la diète paléolithique peut entraîner une perte de poids un peu plus importante qu'un régime amaigrissant traditionnel. Toutefois, après 6 mois, les sujets soumis à une diète faible en glucides ont tendance à reprendre plus de poids que ceux suivant une diète faible en gras. Mais un petit plus quand même avec ce régime paléolithique, c'est qu'on peut le respecter même au restaurant. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, puisque bon, il y a certains régimes où du coup, on se coupe un peu de la vie sociale, c'est-à-dire on va plus au restaurant, alors que là, effectivement, bon, c'est juste qu'on va demander un plat sans sauce, finalement.
Et est-ce que l'histoire dit si Jeb Bush tire sa femme par les cheveux en tenant sa grosse matraque?
Non, l'histoire ne nous le dit pas.
Ah, dommage.
Mais il faudrait mener peut-être une enquête.
Bah oui, quand même, si c'est le futur président des États-Unis, ça nous intéresse.
Ah, c'est cela.
Alors, est-ce que tu peux nous en dire maintenant un petit peu plus sur le baby food?
Ah, ça l'intéresse, le Guillaume, les petits pots pour bébés.
Alors, le site docteurbonnebouffe.com nous apprend que ce régime consiste à se nourrir exclusivement de pots de bébé, donc POTS. Hein. Ce dernier serait notamment prisé par l'actrice Jennifer Aniston, comme j'ai pu vous le dire donc en début de cette chronique. Alors, un des avantages hein, finalement de suivre ce régime alimentaire des bébés est le fait que les aliments pour bébés contiennent une bonne quantité de vitamines et de minéraux sans additifs. Mais si la nourriture pour bébé est bonne, elle
ouais, alors on voit qu'il y a très longtemps que tu n'as pas mangé des petits pots bébés salés quand même, parce que c'est franchement pas très bon. Hein.
C'est surtout
autant les petites compotes, c'est
ce que j'allais dire. Non, mais moi j'ai pas dit que c'était bon après.
Ah, bon.
Je t'ai dit qu'il y avait une bonne quantité de vitamines et de minéraux.
Bon.
Maintenant, si j'ai justement voulu tester il y a quelques temps de ça un pot pour bébé, et j'ai vraiment pas aimé parce que je trouvais ça très fade. c'était voilà, c'est vrai que j'ai pas aimé. Mais n'empêche qu'il y a des vitamines et des minéraux qui sont bons pour nous de toute façon. Mais si la nourriture pour bébé est bonne, elle ne correspond pas du tout aux besoins alimentaires d'un adulte. En effet, alors que les vitamines et les minéraux présents dans les aliments pour bébé sont appropriés pour les bébés, ce ne sont pas des quantités évidemment appropriées pour un adulte. C'est pourquoi les aliments pour bébés pourraient conduire à des carences en vitamines chez les adultes, parce que même s'il y en a, il n'y en a pas assez pour le corps humain. De plus, pour un corps adulte. De plus, l'une des plus graves préoccupations relatives à ce type de régime est que cette diète ne nécessite pas de mâcher de nourriture, évidemment, puisque c'est tout mouliné. Cela signifie que si une personne suit le régime alimentaire pour bébé sur le long terme, ses dents pourraient perdre de leur performance et souffrir de problèmes de santé à force de ne plus être sollicitées.
Oui, et puis en plus, il paraît que la mastication, c'est quand même important pour aussi le sentiment de satiété. Donc,
Oui, et pour prévenir le cerveau que ça y est, on mange.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et bien justement, merci Guillaume de faire cette jolie transition, puisqu'on va parler du fletchérisme.
Kézako.
Eh bien, c'est un régime inventé par Horace Fletcher, défenseur des nourritures saines. Le principe est simple, mâcher les aliments jusqu'à ce que ceux-ci deviennent carrément liquides. Selon cet homme surnommé le grand masticateur, cette façon de manger plus lentement entraînerait une réduction de la prise de poids. En effet, si nous mangeons lentement, nous avons le temps de réaliser que nous sommes rassasiés. C'est ce que tu nous disais, Caroline.
C'est très connu, ça, oui, effectivement.
Aucun aliment n'est interdit, donc ça, c'est vraiment le top avec avec ce régime. Cette méthode pour maigrir n'est donc pas dangereuse. D'ailleurs, on parle plus de méthode que de régime, puisque voilà, on mange ce qu'on veut.
Et du coup, c'est une méthode qui est conseillée dans de nombreux régimes.
Tout à fait. Par contre, il est clair qu'il faut désormais passer un peu plus de temps à table. Donc voilà. Et puis, il faut s'y tenir aussi. Et
pas facile dans notre vie trépidante.
Voilà. Voilà.
Bon alors, si on passait au régime champignon, je crois que tes feuilles de ta chronique
ont trempé
dans les champignons à la grecque, mais je crois pas, je suis pas sûr que ça soit ce qui est recommandé.
Non. Et d'ailleurs, moi ça m'a pas du tout donné envie de suivre ce régime quand j'ai vu le principe du régime champignon, puisqu'en fait il consiste à consommer majoritairement, devinez quoi,
des champignons.
De préférence crus.
C'est bon les champignons crus en salade avec du citron.
Oui, mais enfin tous les jours et à tous les repas, imagine.
Voilà. Le principe est de remplacer l'un des repas, donc vous avez le choix, soit le déjeuner, soit le dîner, par un menu exclusivement composé de champignons pendant 14 jours. Alors oui, j'aime bien les champignons, Guillaume, mais tu vois, manger que ça à midi, je sais pas. Pendant 14 jours, en plus, je trouve que ça fait un petit peu long. Alors, le régime champignon est en vogue dernièrement chez nos amis les stars. Katy Perry ou Kelly Osbourne, par exemple, ont toutes les deux adopté ce régime dont elles vantent les bienfaits. Alors, selon elles, la consommation de champignons crus donnerait une impression de satiété qui empêcherait les grignotages. D'après les inconditionnels de ce régime, cette méthode d'amincissement permettrait de cibler certaines zones à problème comme les hanches, les cuisses et les bras, sans que cela ne provoque une diminution de la taille de la poitrine. En réalité, en consommant moins de calories, on perdra forcément du poids, mais les seins ne seront pas épargnés. Il n'y a aucun régime, en fait, qui arrive à cibler certaines parties du corps, comme les cuisses, les hanches, et on ne touche pas aux seins, c'est pas possible. Voilà, quand on perd, c'est de partout, et quand on prend, c'est de partout aussi. Cette nouvelle tendance mincière est tout simplement un régime hypocalorique. Il vous permettra de perdre du poids à court terme, mais ne vous en apprendra pas à manger équilibré, ni à trouver un poids d'équilibre. Mais effectivement, on perd quand même du poids. Hein. Mais bon, là, on perd aussi des seins. Voilà.
Bon, alors finalement, on opte pour le régime forking.
Alors, cette méthode consiste à ne manger qu'avec une fourchette. Donc, sans couteau ni cuillère. Lors du dîner, vous serez ainsi obligé d'exclure, entre autres, les viandes, les desserts, tout ce qu'on ne peut pas prendre avec une fourchette. Alors après, il faut jouer le jeu aussi, parce que je vois Guillaume.
Oui, parce que alors moi, je crois que j'arriverai à tout manger avec ma fourchette.
Hein. Oui, pareil. Alors, enfin, je pense qu'avec une fourchette, tu manges de la viande.
C'est difficile de couper un steak avec avec une fourchette.
Un steak haché, ça se coupe très très bien avec une fourchette. Hein.
Un steak haché, mais pas un steak. C'est difficile.
Un poisson pané, ça se coupe très très bien, voilà, avec une fourchette.
Mais c'est difficile aussi, par exemple, de boire, enfin de manger, si on peut dire ça comme ça, un yaourt. Enfin, le but, Guillaume, c'est de jouer le jeu. Non.
Ouais, enfin, le jeu est pas très drôle.
Ah bah oui, mais bon.
Bon, alors, allons-y pour la fourchette.
La méthode Farkin permet de maigrir en réduisant sa consommation alimentaire, puisque la fourchette ne permet pas de prendre de grandes bouchées non plus. C'est
donc on revient au fletcherisme.
Oui, alors évidemment, mais c'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Caroline, hein, c'est que cette méthode du fletcherisme est souvent préconisée finalement dans tous les régimes. Donc oui, forcément, on retrouve ça, bien mastiquer ces aliments. Et manger avec une fourchette te permet de moins manger et de ne pas manger certains aliments si tu joues le jeu, mais j'ai l'impression que ça ne te plaît pas du tout, Guillaume. Donc voilà, ça permet de réduire les portions et d'habituer l'organisme à consommer un petit peu moins le soir, puisqu'on le sait, le soir, on n'a pas besoin d'aliments qu'à midi, par exemple, ou surtout le matin.
Bon, alors le plus fou des régimes maintenant, celui du air diet. C'est comme la air guitare ou...
Exactement.
Je sens que ça va me plaire, ça.
Mais moi aussi. Ou pas. Mais c'est ce qu'on aurait dû faire à midi, d'ailleurs. Ouais.
Elle me l'avait proposé. J'ai radicalement refusé, Guillaume.
Ah, bon.
Mais oui, d'ailleurs, c'est bizarre. J'ai pas compris pourquoi. Donc, le principe, hein, vous l'aurez compris, faire semblant de manger.
Ah, mais c'est pas la air diet, c'est le air repas. Parce que si c'est pour faire semblant de faire... Parce qu'en fait, tu fais réellement la diète. Alors que normalement, quand tu fais de la air guitare, tu fais pas de la guitare.
Timide. Oui. Quand tu fais du air guitare.
Oui, donc tu fais un air repas pour faire la diète.
C'est ça, c'est un air repas pour faire la diète.
Oui, mais écoute, moi, Guillaume, c'est pas moi qui donne les noms des régimes, d'accord? Donc tu vois ça avec l'inventeur de ce régime. Ok, tu m'engueules pas. Hein, parce que ça y est, il a passé un week-end là au bord de la piscine. Monsieur y rentre et il est complètement changé. C'est pas moi qui ai inventé ce concept. Ok.
Mais ok.
Donc c'est pas moi qui ai inventé le air diet.
Bon, allons-y pour
les. Je voudrais peut-être aller te faire un petit week-end au bord de la piscine, Anne-Marie.
Ah non, mais
Allez, un peu.
Je me fais agresser.
Non.
Alors.
Un peu de air diet, allons-y.
Bon, t'as envie de savoir comment ça se passe?
Oui, allons-y.
Bon, allez, tu trépines d'impatience. Alors, vous faites entrer votre cuillère ou votre fourchette dans votre bouche, vous mâchez et vous avalez. Vous adoptez donc les mêmes gestes que lorsque vous mangez, mais seulement vous consommez de l'air. Donc voilà,
c'est pas bon pour l'aérophagie.
C'est sûr.
Heureusement qu'elle nous l'a mis à la fin, celui-là. Parce que...
Exceptionnel dans son principe, le régime appelé air diet, et c'est pas moi qui ai inventé ce nom, est certainement le moyen le plus rapide pour perdre du poids. Il est tout à fait évident que vous perdez du
poids.
Ça y
est, rien. Guillaume s'y est mis.
Voilà. Oui, mais tu t'y mets aussi après avoir mangé de la charcuterie, ça marche pas, ça. De plus, vous pouvez pas me contredire, il permettra sans aucun doute de faire des économies.
Ah, ça, c'est sûr.
C'est sûrement.
Mais il n'y a rien de bon à pratiquer l'air diète, comme vous ne consommez rien, vous vous exposez à un risque de carence très grave. Et pas que,
bravo,
on l'a compris, Caroline.
C'est le régime grave de la faim, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. De plus, ne pas se nourrir est souvent assimilé à un trouble alimentaire. Faire semblant de manger devant une assiette vide ou pleine est une pratique connue des malades d'anorexie. Voilà. Alors moi, toutes ces bêtises, ça m'énerve, surtout quand on sait qu'il y a 805 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, soit une personne sur neuf selon les chiffres du Programme alimentaire mondial. Donc je vous propose d'écouter la chanson « Ça m'énerve » d'Helmut Fritz.
Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'entre au Coast boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui portent la frange à la quête molle. Le rouge à lèvres, c'est fini, maintenant c'est le close. j'arrive sur mauvaise pas. On me dit tu rentres pas, ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blonde au téléphone me dit
je peux vous aider?
Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. Au milliardaire, dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi. Ces gens qui font la queue chez la durée, tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Toutes celles qui dansent le dance floor comme des princesses. Si t'as la black card, et ben tu verras leur pièce. Ça m'énerve.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, on se retrouve pour cette troisième partie d'Actuel et lui. Et cette fois-ci, nous retrouvons Caroline en vrai, en chair et en os.
Oui, je suis bien là.
Alors, dis-nous tout.
Et alors, pour tout vous avouer, j'avais choisi, après un incident...
diplomatique.
Un incident, on va dire, à Midi Libre ce week-end, de vous parler de « Je suis Charlie » trois mois après. Et bien que la chronique soit presque finie d'écrire, au moins dans ma tête, je me suis dit ce matin que ça allait peut-être un peu plomber l'ambiance et que finalement, pour plagier Charlie, je n'allais pas m'apesantir sur la tristesse d'être lu par des... Mais vous verrez, comme je suis quand même un peu têtu, on peut parler littérature et faire passer ses messages aussi. Alors j'ai choisi pour commencer, et bien que je ne sois pas, je dois le dire, une grande lectrice de littérature américaine, bon c'est ça, j'aime la chanson française, j'aime les auteurs français, c'est comme ça, ça s'explique pas, chacun ses trucs. J'ai choisi donc malgré tout de vous parler du dernier et gros 900 pages chez Rivage pavé de James Ellroy. Alors ne vous précipitez pas en librairie après la fin de cette émission, histoire de meubler une fête du travail pluvieuse, donc ennuyeuse, qui s'annonce. Le livre ne sort en France que la semaine prochaine, mercredi a priori. Mais écoutez bien pour vous donner envie quand même. Alors bien évidemment, contrairement à Guillaume, je ne l'ai pas lu au pied de la piscine puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais j'en ai beaucoup entendu parler et ça m'a donné très envie. Et c'est d'ailleurs trois envies de lecture que je vais partager avec vous plutôt que trois lectures déjà faites. Perfidia, c'est donc ce premier roman de James Ellroy, du deuxième quatuor de Los Angeles qu'il lance. Hein, c'est en fait son 14e roman. James Ellroy, faut-il le rappeler succinctement, est né en 48 à Los Angeles, en Californie. C'est un écrivain, scénariste américain spécialisé dans le roman noir et le roman policier historique. S'affirmant comme conservateur et réactionnaire, il dépeint dans son œuvre un monde particulièrement pessimiste et corrompu dans lequel perce néanmoins la notion de rédemption, fil conducteur de nombre de ses ouvrages. Parmi ceux-ci, on peut citer quand même la série de quatre livres, donc le premier quatuor de Los Angeles, dont font partie le Dahlia Noir, son premier roman, et L.A. Confidential. Sa trilogie Underworld USA, qui retrace son histoire des États-Unis de 58 à 73, ainsi que son récit autobiographique Ma part d'ombre. Plusieurs de ses romans, vous l'avez entendu, ont été adaptés au cinéma. Il est surnommé American Dog ou Le Dog. Donc 30 ans après l'écriture du Dahlia Noir, il foule à nouveau avec Perfidia le pavé d'une ville qu'il ne l'a jamais laissé souffler. Dans cet imposant ouvrage, son 14e roman, donc, il retrouve le Los Angeles des années 80, des années 40, pardon. Il confie à Télérama, qui lui consacre cette semaine une longue interview, « Je vis entièrement dans le passé, la ville d'aujourd'hui, je ne la vois pas. » Il précise encore « Je suis né en 48 et je me souviens d'une discussion avec ma mère quand j'avais 8 ans où elle a compris que je nous croyais encore en guerre. Tu le sais, la paix est signée depuis un moment, m'a-t-elle dit. Le conflit était tellement ancré dans l'imaginaire américain que je ne l'ai pas cru. Je ne sais même pas si je la crois aujourd'hui. Je vis toujours sous l'emprise de mon imagination. Le Los Angeles où j'ai grandi a été façonné par la guerre. C'était une ville en plein boom au début des années 40, un port face au Pacifique d'où venaient nos ennemis et où partaient nos soldats. L'industrie de la défense y avait établi ses quartiers, les troupes logées dans la ville, l'industrie du cinéma, en grande partie dirigée par des juifs exilés d'Europe, était ici aussi, et c'est à LA qu'ont été tournés les principaux films de propagande antifasciste. Et c'est ici encore qu'on trouvait la plus forte concentration de Japonais-Américains qu'on a raflé pour les internés. Anne-Marie nous en avait parlé, d'ailleurs, dans une chronique précédemment. Une situation explosive et propre au drame. L'histoire de Perfidia, c'est une histoire qui se déroule en temps réel sur un mode dense et structuré entre le 6 et le 29 décembre 1941. Los Angeles se trouve à l'aube d'un effroyable et d'un titanesque conflit mondial, bien sûr. Les divisions politiques, isolationnisme contre interventionnisme font rage. La rancœur anti-japonaise enfle et on découvre à leur domicile les cadavres d'une famille japonaise de la classe moyenne. Voilà le pitch du roman. Et quand on demande à James Ellroy comment faites-vous pour vous immerger dans le passé sur lequel vous écrivez, il explique « J'emploie des enquêteurs qui compilent des informations et établissent une liste de faits, une chronologie à partir de laquelle je peux extrapoler. Je ne veux surtout pas pervertir l'histoire, mais m'y insinuer, vivre en son sein et en inventer ma version. » Je n'ai aucun mal à me plonger dans ce passé, car j'y ai vécu toute ma vie. Je sors rarement de ce monde imaginaire. Je me projette en permanence des images de Voile-Char Boulevard dans les années 40. Toutes les rues, tous les bâtiments de la ville, je les sens près de moi. Regardez cet hôpital là-bas, il est en moi. Le restaurant où nous nous trouvons a ouvert en 1921 et j'y viens toujours parce que je m'y sens en paix. Ma maison, pas loin de Griffith Park, a été construite en 1926. J'ai besoin de rester au contact du passé et de le réinventer sans cesse. C'est ma manière de l'affronter. Et alors ça, c'est extrait de cette interview de Télérama dont je vous parlais. Et Ellroy déclare aussi sur le site de son agent « C'est mon plus gros roman et le plus détaillé sur le plan historique, le plus accessible en termes de style et aussi le plus intime. Plaintif, mélancolique, il plonge dans la trahison morale des débuts de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. » Avec l'emprisonnement des citoyens japonais, une histoire épique et populaire de Los Angeles en décembre 1941. En termes d'ambition, de style et d'intention dramatique, ce sera du jamais vu. Je prendrai des personnages fictifs et réels de mes romans précédents et je les placerai à Los Angeles pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils seront beaucoup plus jeunes, bien sûr. L'action commencera avant le 7 décembre. Jour de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, et emportera une multitude de personnages jusqu'à la fin de la guerre. Enquête policière massive, intrigue politique, histoire d'amour phénoménale, profit tiré de la guerre, complot de sabotage sur l'axe, quatre romans reliés de 700 pages chacun qui embraseront toute l'ampleur du plus grand événement mondial du XXe siècle. Voilà. Alors, une grande promesse de lecture pour les mois et les années à venir, hein, puisque quatre romans de 700 pages, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, j'ai lu et entendu quelques très bonnes critiques de critiques littéraires qui ont pu déjà mettre le nez dans ce dernier Ellroy. Alors il faut rappeler qu'au cours de sa carrière, il s'est inspiré des pionniers du roman noir tels que Raymond Chandler, auteur du Big Sleep, auquel fait écho son Big Nowhere d'ailleurs. Voilà. Alors, si vous ne savez pas quoi faire en ce week-end qui s'annonce, vous pouvez vous plonger dans un précédent Ellroy. Le Dahlia Noir, pourquoi pas, c'est un très bon roman. Et puis, mercredi, vous précipitez en librairie pour trouver ce dernier. Voilà, et alors j'ai choisi ensuite de revenir à quelque chose de plus léger, en tout cas notamment dans le poids du livre. Je veux vous parler du dernier Alexandre Jardin, Laissez-nous faire, on a déjà commencé, qui sort chez Lafon. Alors, dans ce livre qui tient du récit, du pamphlet et du manifeste, Alexandre Jardin dévoile son combat pour une société civile adulte et solidaire, non soumise au parti et sûre de ses compétences pour se soigner elle-même. Alors, il raconte également sa double vie de citoyen engagé dans une stratégie en cours pour relancer la France par en bas sans rien attendre d'en haut. Une promesse qui, quand même, semble bien intéressante. Alors, je l'ai entendu cette semaine à la radio. Il avoue lui-même que c'est le livre qu'il a eu le plus de mal à écrire. Celui, peut-être, où il se livre le plus et, en tout cas, où il livre... Parce que vous le savez, Alexandre Jardin livre régulièrement des pans de son histoire familiale, et notamment l'admiration qu'il a pour son père, hein, le premier des Zèbres. En tout cas, là, il livre des pans de l'histoire familiale dont il n'est pas forcément fier, et notamment une connivence familiale avec Laval au début de la guerre, dont il a un peu honte de parler, reconnaît-il lui-même. Alors il dit de ce livre « Toute ma vie, j'ai eu peur de me perdre dans ma passion pour la France. Alors j'ai longtemps porté un masque de romancier. Je corrigeais le réel par écrit au lieu de le remanier. Je publiais pour ne pas agir politiquement, par confort et, disons-le, couardise. » C'est un mot qu'il aime beaucoup d'ailleurs. « Pour jeter le masque, manquer le moment où la nécessité publique serait plus forte que mes trouilles privées, l'instant où je ne supporterais plus de vivre une époque droguée au déni permanent et shootée à l'ironie. » Manquer le choc qui me conduirait non à vouloir prendre le pouvoir, mais à en donner à ma société, si féconde et créative. Dans mon cœur, il n'a jamais été question que de cela, aider les simples citoyens à prendre le contrôle de leur vie, rassembler les faiseux, ceux qui font, en sortant du cadre, et fabriquent déjà des solutions concrètes pour réparer la nation, pour recommencer l'époque, et que la joie redevienne un mot français. Alors, on peut aller signer la pétition qui est lancée par Alexandre Jardin et tout un ensemble de zèbres. Ça s'appelle l'Appel des Zèbres, c'est sur Internet. Les zèbres, c'est donc ces faiseux dont parle Jardin. On peut aussi aller le rencontrer ce mardi 5 mai à la médiathèque centrale Émile Zola à Montpellier. À partir de 18h30, c'est une rencontre proposée par la librairie Soramps. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympa. En tout cas, certains critiques Jardin trouvent ses livres légers et faciles. C'est vrai que ça se lit facilement au pied d'une piscine tranquille pour passer un week-end cool. Mais je crois que cette initiative, quelque part citoyenne, peut être assez sympa. Il lui est posé la question dans une interview de savoir si ça peut conduire en 2017 à une candidature à la présidence. Alors il répond qu'il n'y pense pas du tout en se rasant et pas du tout le matin en se levant, et que s'il devait en arriver à ça, ça serait vraiment un échec de cette initiative qu'il lance aujourd'hui. Donc voilà, pour lui justement, il n'y a plus rien à attendre des politiques et tout de la base. Donc un petit peu comme Stéphane Hesel, indignez-vous et prenez-vous en main. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, avec ces deux derniers livres, avec ce livre et celui dont je vais vous parler maintenant, vous allez voir que j'ai quand même un peu de suite dans les idées, je veux finir avec le livre de Caroline Fourest, Éloge du blasphème. Alors, un titre qui m'a aussitôt fait penser, bien sûr, au traité sur la tolérance de Voltaire. Et même si Fourest n'est pas Voltaire, elle est quand même pour moi, dans ses combats et dans ses prises de position, une des lumières de notre début de XXIe siècle. Alors, pour résumer ce livre qui sort et dont on entend beaucoup parler, dont vous entendrez certainement encore plus parler ce week-end, hein, puisqu'elle a participé à l'enregistrement ce lundi de l'émission de Ruquier « On n'est pas couché », que visiblement, il y a eu un énorme clash avec Caron. Mais bon, j'ai pas trop envie de faire la promo de ça, parce que je pense que son livre vaut beaucoup mieux, justement, que...
Il faut peut-être réécouter plutôt son interview ce matin.
Voilà, sur France Inter, qui m'a semblé fortement intéressante. Donc, pour résumer, c'est, après l'immense émotion qui a suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, Caroline Fourest revient sur ses voix qui, au nom de la responsabilité, de la peur d'offenser ou du soupçon d'islamophobie, n'ont pas voulu être Charlie. Dans cet essai pédagogique sans concession, elle recadre les débats sur la liberté d'expression et alerte sur les dangers d'une mondialisation de l'intimidation. Elle clarifie la ligne de fracture entre laïcité à la française et relativisme anglo-saxon, entre droit au blasphème et incitation à la haine, entre Charlie et Dieudonné, entre rire du terrorisme et rire avec les terroristes. Et pour moi, et au vu de notre petit quotidien, où 3 mois après Charlie, certains recommencent les petites compromissions et à mettre la poussière sous le tapis, c'est une voie essentielle avec d'autres pour continuer à mener le combat de la tolérance, de l'ouverture, du respect des uns des autres, dans toutes leurs composantes, bien sûr. Une voie essentielle pour le bien vivre ensemble. Précipitez-vous dans les bacs pour trouver ce bouquin et ça peut très bien occuper votre pont du 1er mai.
Alors, on finit en chanson ?
Eh bien, bien sûr, et pour finir sur ce thème, j'ai choisi un artiste que j'adore, qu'on a déjà souvent entendu sur ces ondes, un artiste que je partage avec mon ado à la maison, et ça, c'est quelque chose de sympa. Grand Corps Malade, je suis Charlie, bien sûr.
Janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Nos artisans de la liberté ont rencontré leur destinée. Ce soir, j'écris pour eux parce que je sais pas dessiner. Soyons 66 millions à avoir la même idée pour que leurs cartouches d'encre à eux ne soient plus jamais vidées. Laissons des traces indélébiles pour que l'avenir puisse savoir que leur talent et leur courage ne vivent pas que dans nos mémoires. Écrivains, paroliers, dessinateurs, graffeurs, musiciens, poètes, peintres et sculpteurs. Célébrités anonymes, professionnels et amateurs, faisons en sorte que cet élan s'affiche plus loin que sur Twitter. Des hommes sont morts pour défendre la liberté d'expression, mais leurs idées doivent rayonner et ne subir aucune pression. Contre l'obscurantisme avec honneur et insolence, à nous de prendre les crayons pour que leur combat ait un sens. J'ai mal à l'être humain, comment en est-on arrivé là? Perdu dans ce vacarme, la fraternité chante a cappella. La barbarie grandit sans aucune trace de dignité. En 2015, le monde a perdu toute humanité. Si seulement les mois qui viennent pouvaient me faire mentir, si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir, je suis Charlie.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
On s'excuse, la chanson était courte, on était en train
de papoter et
de manger. Donc voilà. on s'excuse, on vous souhaite une très bonne quinzaine, on vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous podcaster sur 48fm.org, nous réécouter le jeudi à midi et demi
et le mardi à 18h12.
12, voilà, plutôt maintenant. Il y a eu un petit truc avant nous maintenant, donc on est plutôt à 12.
On est toujours très précis, moi j'aime
oui,
ça.
Oui, moi j'adore cette horaire.
Voilà. C'est
comme ça. Voilà, et puis ben, écoutez, on vous souhaite une bonne quinzaine et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt
et mangez un peu quand même. Hein.
Voilà, et profitez de bons week-ends avec tous les ponts qui arrivent. C'est le bon moment, planifiez des bons week-ends. Piscine, livres, tout ça. Il n'y a plus qu'à souhaiter qu'il y ait du beau temps. À bientôt.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.